Voilà, moi je vais vous présenter un travail collectif que Alice Desclos devait présenter, mais qui est empêchée et qui s'excuse. Donc elle m'a envoyé son texte que je vais vous lire avec la même intonation qu'Alice et le même accent. Des individus sont présents depuis le siècle dernier dans la mémoire collective publique des épidémies. Ceux qui ont étudié les dimensions sociales de l'épidémie du sida connaissent le nom de Gaëtan Dugas, le steward considéré comme patient zéro en Amérique du Nord. Un terme utilisé par les épidémiologistes pour désigner le premier individu atteint au cours d'une épidémie. Même si par la suite des cas d'infection à VIH antérieurs aux siens ont été identifiés, il est resté symboliquement l'individu qui, par ses pratiques sexuelles, a introduit le virus aux États-Unis. De même, toujours aux États-Unis, Mary Malone, une immigrante irlandaise qui faisait la cuisine dans une maison de Long Island, où a débuté une épidémie de typhoïde et qui a été identifiée en 1907 comme le premier porteur sain de la bactérie Salmonella typhi, est restée dans la mémoire collective sous le nom de typhoïde Mary. L'histoire personnelle de ces individus, comme d'autres individus identifiés pour d'autres épidémies, a été décrite de manière assez précise grâce aux études d'historiens, d'épidémiologistes et de virologues qui retracent désormais la circulation des agents pathogènes très précisément jusqu'aux échanges inter-individuels. Cette histoire personnelle a fait l'objet d'un processus de construction ou reconstruction, la transformant en récit public qui a largement procédé de l'accusation de la victime et de la mise à l'index pour avoir introduit la maladie. La fin de ces histoires individuelles n'a pas été mise en lumière dans l'historiographie collective. Gaëtan Dugas est mort du sida à 31 ans en 1984 et Mary Malone a été mise en quarantaine pendant le reste de sa vie, à l'exception de 5 années. Elle est décédée en 1938 à 69 ans, toujours en quarantaine et en pensant qu'elle avait été accusée injustement puisqu'elle n'avait elle-même jamais déclaré la maladie. Donc cette introduction rappelle que les individus qui deviennent emblématiques d'une épidémie, dont ils portent la responsabilité aux yeux de l'ensemble du corps social, restent, selon la définition de l'expression « typhoïde Mary », entrés dans le langage commun, porteurs entre guillemets ou transmetteurs de quoi que ce soit d'indésirable, dangereux ou catastrophique. Dans un colloque qui porte sur la guérison, changeons de perspective pour nous demander s'il existe des figures positives du patient zéro. Restez dans l'histoire récente du 20e et du 21e siècle. Nous proposons un candidat pour ce statut, que nous appellerons MAD, pour préserver une confidentialité qui a déjà été mise en mal au Sénégal. L'objectif de cette communication est d'analyser les représentations sociales du patient zéro de l'épidémie d'Ebola au Sénégal, entre parenthèses, a posteriori, requalifié de flambée épidémique, puis de gestion de cas importés. Deuxième objectif, d'étudier leur évolution dans le temps jusqu'à sa guérison. Et enfin, d'examiner les logiques sous-jacentes à l'écho qui a été donné au niveau national à cette histoire de cas individuel. Il s'agit donc d'une approche ethnographique du rapport entre corps individuel et corps social dans les représentations collectives de l'épidémie d'Ebola au Sénégal, observée en train de se faire. Voici rapidement, on va passer rapidement quand même, sur la chronologie de l'épidémie au Sénégal, et on reviendra plus en détail sur les phases par la suite. Donc c'est une étude qui a été menée au Sénégal dans le cadre du projet « Épidémie d'Ebola et production sociale de la confiance au Sénégal », avec des entretiens avec plusieurs acteurs, des professionnels de santé, des vigiles, des personnels de services concernés. Des observations également ont été menées sur des événements clés. Il y a eu une recension des données et une collecte des publications de presse nationale. Et parallèlement, également, il y a eu un suivi du dispositif de riposte. La prudence méthodologique qui conduit à qualifier les éléments qui suivent de discours des médias. La prudence méthodologique nous conduit à qualifier les éléments qui suivent de discours des médias. De fait, Les commentaires des lecteurs sur les sites web des journaux sénégalais, comme les entretiens épars que nous avons menés, montrent que ces discours ont été largement repris et constituent le noyau dur des représentations dans la population en cours de constitution à cette période. MAD fait alors l'objet de discours accusateurs qui ont été présentés de manière détaillée au cours du colloque Ebodaka. Donc j'avais moi-même fait une communication sur le patient. Les formulations de la presse attribuent à MAD un rôle actif dans l'introduction du virus au Sénégal, qui déchaîne les commentaires des lecteurs dans le web. MAD est donc accusé sur la base de trois motifs principaux. Il a introduit sciemment Ebola au Sénégal. Deuxièmement, il trompe les soignants sur son histoire. Et troisièmement, il usurpe en tant que Guinéen les soins d'un système destiné aux Sénégalais. Ceci a des effets tels que les propos menaçants des jeunes venus à l'hôpital pour s'occuper du Guinéen, entre guillemets, qui nécessitent une garde policière au service des maladies infectieuses qui restera en place jusqu'à la fin de son séjour. Début septembre, les Guinéens se font discrets à Dakar, subissant des attitudes de rejet et de critique. Les discours à propos de MAD rappellent ce que l'on trouve dans la bibliographie à propos de Dugas et de Malon. En effet, les médias et des ouvrages grand public publiés aux États-Unis accusaient ces deux figures emblématiques d'avoir sciemment infecté d'autres personnes, soit pour Gaëtan Dugas par refus des moyens de protection, soit pour Marie Malon par refus d'admettre qu'elle était une bombe humaine. Après avoir été critiquées pour leurs actes, ces deux personnes avaient été critiquées pour leurs intentions. C'est aussi ce qu'a subi MAD, sans en avoir conscience, parce que pendant toute la durée de son hospitalisation, il n'a pas eu accès aux médias, car et son oncle et les soignants souhaitaient le protéger de ces accusations. Ses discours critiques persistent avec des variations jusqu'au moment de sa guérison. Pour MAD, la perte du statut de malade va procéder par étapes. Au cours de son hospitalisation dans le service des maladies infectieuses, les symptômes de MAD s'estompent jusqu'à disparaître quelques jours après sa mise en isolement. Le 9 septembre, deux tests virologiques dont les résultats sont revenus négatifs permettent au ministère de la Santé de déclarer la guérison dans un communiqué de l'agence de presse sénégalaise. La semaine suivante sera une période de flottement. MAD est toujours dans le centre de traitement où il est seul, en attente de pouvoir rentrer en Guinée, ce retour posant un problème complexe puisque les frontières sont fermées. Les autorités sénégalaises ne souhaitent pas qu'il quitte le centre pour éliminer tout risque de transmission secondaire et rassurer la population et pour éviter qu'il soit agressé, compte tenu de l'agressivité à son égard exprimée dans certains médias et dans la rue. Notons que cette hospitalisation en service des maladies infectieuses, sans indication médicale et à la demande de tiers, n'a pas de caractère légal. C'est seulement le 19 septembre que deux médias nationaux annoncent le retour de MAD par avion vers son pays d'origine, accompagné d'interviews filmées exclusives retransmises par une chaîne télévisée publique nationale. MAD fait l'objet d'une attention extrême. Un vol militaire spécialisé est affrété. Le couloir humanitaire ne sera ouvert que plus tard. Le gouvernement à Conakry, qui n'avait pas apprécié la fermeture de la frontière par le Sénégal, refuse l'atterrissage. Mais MAD retournera en Guinée le lendemain. Le traitement médiatique est du même niveau que pour une visite de chef d'État. La parole est donnée à MAD dans quelques interviews dès le 13 septembre. Il explique la chronologie de son séjour. Il demande pardon pour avoir introduit le virus. Il explique qu'il doit sa guérison aux médecins sénégalais et les remercie. Il se réfère à Allah pour la protection et à sa religion comme guide dans l'épreuve qu'il a endurée. Il disait justement à ce propos, un bon musulman ne cède jamais au découragement. On note alors un revirement dans les discours des médias sur MAD. Les qualificatifs péjoratifs disparaissent des articles, mais pas totalement des commentaires dont certains restent encore violents. On voit émerger la rhétorique du pardon dans les commentaires. Et on cite ici quelqu'un qui dit Tu es pardonné, petit Guinéen, l'erreur est humaine. Suis les recommandations de ton médecin, qu'Allah te pardonne et te protège. Le 19 septembre, les médias sont unanimes. C'est le Sénégal tout entier qui est guéri. Cette guérison nationale, nous l'observons de plusieurs manières dans notre dispositif d'enquête, qui nous permet aussi d'en saisir les connotations. Cette superposition de la guérison individuelle et la guérison collective est explicite à trois niveaux. Au niveau épidémiologique, au niveau des représentations du risque et de la capacité de riposte, et enfin au niveau moral. La guérison épidémiologique, c'est-à-dire la suspension du risque de transmission du virus, apparaît d'autant mieux que le départ du malade a été annoncé le jour de la fin de la surveillance communautaire des 74 cas contacts. On apprend non seulement que le porteur du virus a quitté le pays, mais aussi qu'il n'y a pas eu de transmission secondaire sur le sol sénégalais. On peut s'interroger sur l'intention stratégique sous-jacente à cette coïncidence. Les autorités sénégalaises parlent à partir de ce moment de cas isolés importés et non plus de flambées épidémiques. Le 17 octobre, soit 42 jours après la guérison du malade, l'OMS déclarera la fin de l'épidémie au Sénégal. Les effets de cette perception que le risque Ebola a disparu sont perçus à tous les niveaux de notre enquête. Même les professionnels engagés dans le processus institutionnel de mise en place d'un dispositif de riposte qui se retrouvaient quotidiennement pour des réunions de travail jusqu'alors, sont retournés à leurs autres dossiers laissés en suspens. On peut aussi observer que la connotation du guérison national fait écho à la guérison et au départ de MAD, dans les changements survenus dans les représentations du risque et des capacités de riposte perceptibles dans les médias. La frontière avec la Guinée est fermée et MAD a été raccompagné dans son pays. Le danger paraît donc éloigné, hors du territoire national. De plus, la guérison du malade atteste de la capacité des médecins sénégalais à traiter la maladie à virus Ebola et la technicité du système de soins sénégalais est évoquée dans la presse toujours. La chape de peur vis-à-vis du risque Ebola présente au Sénégal dans les premiers jours après le diagnostic de MAD. On a parlé, comme dans les autres pays atteints de psychose collective face à Ebola, semble avoir disparu avec des effets de relâchement général dans les mesures de protection, soit individuelles ou professionnelles, lavage des mains, évitement des contacts corporels, etc. On note l'émergence d'une nouvelle crainte que le Sénégal soit pris d'assaut par d'autres patients guinéens qui souhaitent être mieux traités dans leur pays. Cette crainte se résoudra avec l'ouverture du corridor humanitaire qui permet d'apporter aux pays les plus touchés des moyens de traitement sur place par des ONG internationales basées à Dakar. Une dernière dimension qui articule guérison individuelle et collective est la dimension morale. Les discours des médias expriment un grand pardon accordé à MAD qui allie la miséricorde divine envers un bon musulman et la mansuétude des Sénégalais envers un jeune Guinéen étudiant. Ce discours bienveillant tient en premier lieu à l'expression d'excuses par MAD, mais aussi, probablement, au fait qu'il apparaît à la télévision nationale comme un très jeune homme humble et physiquement chétif, à l'opposé d'une figure qui pourrait représenter un danger. Ce pardon individuel ouvre la voie à des discours bienveillants envers les Guinéens en général, qui rapportent entre autres des marques d'entraide récentes et réaffirment la parenté entre Sénégalais et Guinéens. Ainsi, les commentaires des articles sur le web rappellent l'importance de la teranga, hospitalité sénégalaise, comme valeur et l'assurance de la supériorité technique du dispositif médical sénégalais, ce qui permet aux citoyens sénégalais de se retrouver dans une identité positive, tout en continuant à se protéger vis-à-vis des malades de Guinée grâce à la fermeture des frontières. En conclusion, la guérison de MAD, couplée à son départ du pays, a eu valeur de triple guérison nationale. sur le plan épidémiologique, sur le plan des représentations du risque et de la capacité de réponse, et sur le plan moral. La ministre de la Santé a joué un rôle clé dans la production de cette représentation de la guérison collective, qui a peut-être été dictée par une volonté de construction de la cohésion nationale face à la maladie à virus Ebola. Mad n'est pas devenu un héros positif, mais contrairement aux autres patients zéro des maladies épidémiques que furent Gaëtan Dugas et Marie Malon, il a été pardonné, soigné, guéri et raccompagné chez lui. Son histoire personnelle a contribué à la production du récit national sur l'épidémie, renforçant la confiance de la population envers le dispositif de riposte au Sénégal face à la maladie à virus Ebola. Néanmoins, à titre personnel, Mad n'a pas voulu revendiquer en 2015 l'inscription à l'université Cheikh Anta Diop, qui était le motif de son voyage, ayant compris que son statut de patient zéro ne lui permettait pas, sous peine de mettre en péril le récit national de contrôle de l'épidémie par les autorités au Sénégal, de s'inscrire à l'université. Au nom de Alice, je vous remercie pour votre attention. La faute morale que nous voulions rapporter dans cette communication, ce n'est pas en fait l'individu en lui-même, mais c'est comment est-ce que le discours a été reproduit par la presse. Donc, il s'est passé beaucoup de choses sur son itinéraire. Il y a des choses que les gens n'avaient pas compris parce qu'il est venu au Sénégal et c'est 15 jours après ou 10 jours après, entre les deux en tout cas, qu'il a été diagnostiqué positif à Ebola. Donc, pendant tout son séjour, entre ces 10 ou 15 jours, il s'est passé beaucoup d'événements. Et c'est au moment où on a annoncé qu'il était patient Ebola, on a le premier patient Ebola, donc le 29 septembre, que toutes les informations sont tombées au même moment. Et les gens, ils ne savaient pas ce qui s'est passé avant, donc ils n'avaient pas de chronologie des événements. Et après, donc, la presse quand même a porté un jugement très moral sur l'itinéraire du patient et qui a conduit également les gens sur les commentaires sur Facebook et dans la rue à accuser le patient d'être venu au Sénégal sciemment en connaissance de cause. Donc ça, c'était en fait des effets de la retransmission de l'information par la presse. Et ce fut quand même l'objet de la présentation qu'on a faite sur son itinéraire à Dakar.
J'avais juste une remarque. Enfin, je trouve fascinant justement de voir cette congruence entre corps physique, individuel et corps collectif, enfin, national. Vous dites que voilà, la guérison du patient, etc., a renforcé le récit national, mais je me demandais si ce n'était pas quand même, c'est une question, un récit fragile, puisque du mauvais objet, le patient est passé à bon objet, enfin, en termes un peu psy. Voilà, ça a basculé très rapidement finalement et on pourrait s'imaginer que ça rebascule dans un autre sens. Voilà.
Effectivement, je vais commencer par déjà les 74 personnes contacts qu'on a toutes interrogées. Quand on a annoncé la guérison du patient, à ce premier niveau, on a décrit ce qu'on a appelé un sentiment de guérison collectif des cas contacts parce qu'il se disait que puisque c'est lui qui avait... en qui a été diagnostiqué le virus, il est guéri. Donc nous, nous sommes sûrs qu'on ne va pas développer ce virus. Première chose. Deuxième chose, il se disait également que puisque le dispositif au niveau national a pu prendre en charge ce patient, nous sommes sûrs que quand le patient, quand nous, on va développer les signes, quand on sera atteint, on sera également bien pris en charge. Donc ça, c'était un premier sentiment de guérison collective. Et la deuxième chose qui est également très importante et que Alice a bien dit dans son son texte, c'est que les autorités politiques aussi, également ont bien géré l'information en donnant parfois la même information au même moment à tout le monde. Par exemple, quand ils ont annoncé que le patient devait rentrer, c'est le même jour qu'on a annoncé que tous les cas contacts, la surveillance était finie. Donc il n'y avait plus de risque sur le territoire national. Et cela a confronté également au niveau de la presse et des commentaires surtout. Cela avait un effet que je pense qu'ils ont bien réussi, les autorités au Sénégal, de faire croire aux gens que le dispositif au Sénégal était nickel, était bien, et qu'ils étaient tout le temps protégés parce que les frontières sont fermées. Du coup, le risque est très loin, et même s'il doit se présenter, le dispositif qui est sur place est assez bon. Donc je pense que c'était une stratégie vraiment très intelligente de la part du ministère de la Santé au Sénégal, de faire des communications comme ça pour donner les mêmes informations et rassurer en tout cas le public. Mais cela ne veut pas dire que c'était le dispositif MAD et guéri. On sait que Ebola, jusqu'à présent, il n'y avait pas, jusqu'au moment où il était au Sénégal, en tout cas, il n'y avait pas un traitement spécifique au virus. Et comme le médecin l'a dit au colloque Ebola, c'était vraiment la chance qu'au Sénégal, il n'y eut pas, parmi les cas contacts, de personnes qui développent la maladie. Donc c'était vraiment une chance, mais ce n'était pas vraiment une question de dispositif bien mis en place. Mais je pense que la manière dont on a géré l'information et on a véhiculé l'information a fait penser à tout le monde que c'était OK. Il faut pas qu'on craigne la maladie.
S'il n'y a pas d'autres. Non. Alors on peut passer à Lise.